Dans n'importe quelle agence de voyage, vous trouverez une brochure qui vante Jérusalem. Parle de son histoire, son archéologie, sa position géographique, etc. Mais jamais vous ne lirez « Tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. » Et pourtant, c'est bien ainsi que le prophète Ézéchiel décrit la ville sainte personnifiée. Je continue de lire dans le chapitre 16. « Mais tu t'es confié en ta beauté, et tu as profité de ta renommée pour te prostituer. Tu as prodigué tes débauches à tous les passants, et tu t'es donné à eux. Tu as pris certains de tes vêtements, tu les as cousus ensemble pour orner tes hauts lieux, et tu t'es prostitué dessus. Jamais rien de tel ne s'était produit. Jamais cela ne se reproduira. Tu as pris tes magnifiques bijoux, fait de mon or et de mon argent que je t'avais donné, et tu en as fait des statues d'hommes, et tu t'es livré avec elles à la prostitution. Tu as pris tes vêtements brodés pour couvrir tes idoles, et tu leur as offert mon huile et mon encens. C'est avec l'Éternel et sur le mont Sinaï que le peuple élu a conclu une alliance qui fut scellée par la loi de Moïse. Mais Israël est devenu arrogant et infidèle à l'Éternel en adoptant les fausses divinités des nations environnantes. Moïse, puis tous les prophètes, comparent cette idolâtrie à une prostitution religieuse. Ces faux dieux sont des statues fabriquées en bois, plaquées en or ou en argent, que l'on revêt d'habits à l'occasion des fêtes. Ces idoles sont généralement dressées sur les collines ou sous des arbres, et les Israélites viennent les adorer de diverses manières, ce qui peut inclure des partouzes avec des prostituées sacrées ou des sacrifices d'enfants. Je continue plus loin. Tu as même pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu les as offerts en sacrifice à ces images pour qu'ils les dévorent. Comme s'il n'était pas suffisant de te livrer à la prostitution, tu as égorgé mes fils et tu les as offerts à ces idoles. Ces horreurs font surtout partie du culte de l'idole Moloch. Dans les cultes païens, la cruauté et la débauche vont de pair. Plusieurs rois pieux de Juda avaient aboli cette coutume odieuse, mais elle revenait sans cesse. Je continue plus loin. Alors je suis intervenu contre toi. Je t'ai coupé les vivres et je t'ai livré au bon plaisir de tes ennemis. Les villes philistines, elles-mêmes indignées par ta conduite infâme. Les confédérations des Philistins, qui se composaient de 5 villes situées dans l'actuelle bande de Gaza, avaient annexé une partie du territoire de Juda. Je continue plus loin. Tu as été comme une femme adultère qui accueille d'autres hommes à la place de son mari. Alors qu'il possédait pourtant le culte du vrai Dieu, Israël a préféré se tourner vers les idoles. Je continue. En effet, toutes les prostituées reçoivent des présents, mais toi, tu as fait des cadeaux à tous tes amants. Tu les as achetés pour qu'ils viennent de partout se livrer à la prostitution avec toi. Israël était prêt à tous les sacrifices pour conclure une alliance militaire avec des peuples païens. Et c'est par leur intermédiaire que l'idolâtrie pénétrait dans le pays. Je continue plus loin. Je vais rassembler tous tes amants auxquels tu t'es offert, tous ceux que tu as aimés, auxquels je joindrai tous ceux que tu as haïs. Je les rassemblerai de tous côtés contre toi. Je découvrirai ta nudité devant eux pour qu'ils la voient tout entière. Quand l'Éternel a quitté le temple, il a rompu son mariage avec son peuple qui redevenait nu, pour ainsi dire, c'est-à-dire sans protection. Les Israélites adorent toutes les idoles qu'ils trouvent, même celles des peuples voisins, qui sont pourtant ses ennemis héréditaires. Je continue. Je te condamnerai au châtiment des femmes adultères et de celles qui ont commis un meurtre. Dans la colère et la fureur de l'amour bafoué, je te le ferai payer de ton sang. En ayant sacrifié des enfants et massacré des innocents, Jérusalem est doublement coupable de meurtre. Or, selon la loi, ces crimes sont punis de mort par l'épée, et l'adultère par lapidation. La colère de Dieu est proportionnelle à la force de son amour trahi. Je continue en compressant. Ils, tes amants, brûleront tes maisons et, sous les yeux de beaucoup de femmes, ils exécuteront la sentence contre toi. Je mettrai ainsi un terme à tes prostitutions. Désormais, tu n'offriras plus des cadeaux à tes amants. J'assouvirai ma colère contre toi et la fureur de mon amour bafoué se détournera de toi. Je garderai le silence et je ne m'irriterai plus. Toutes les nations seront témoins de l'opprobre subi par les Israélites. Mais l'exil aura du bon, puisqu'elle les guérira de l'idolâtrie. Dieu n'oubliera pas son peuple, car une fois sa justice satisfaite, le jugement cessera. Je continue plus loin. Tu es bien la fille de ta mère qui a pris en dégoût son mari et ses enfants, et tu es bien la sœur de tes sœurs qui ont rejeté leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Hittite et votre père un Amoréen. Dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul définit le paganisme comme une ingratitude et un refus volontaire de rendre à l'Éternel la gloire qui lui revient. Comme Israël s'est rendu coupable de ces deux fautes, il est mis au même niveau que les peuples païens. Je continue plus loin en compressant. Voici quel était le crime de Sodome, ta sœur. Elle et ses filles étaient devenues orgueilleuses parce qu'elles vivaient dans l'abondance et dans une tranquille insouciance. Elles n'ont pas secouru les pauvres et les malheureux. Quant à sa mari, elle n'a pas commis la moitié de tes péchés et tu as accumulé plus d'actions abominables qu'elle. En comparaison avec toi et tous les actes abominables que tu as commis, tes sœurs paraissent justes. La méchanceté de Sodome et Gomorre sont légendaires. Et on apprend ici que l'orgueil et l'injustice sociale qui sont à l'origine des autres vices de Sodome et de son châtiment. Je continue plus loin. Aussi, je les restaurerai. Je restaurerai Sodome et ses filles et je restaurerai Samarie et ses filles. Et toi, je te restaurerai au milieu d'elles pour que tu portes ta honte et que tu rougisses de tout ce que tu as fait. Cela les consolera. Ta sœur Sodome et ses filles seront rétablies dans leur état d'autrefois. Samarie et ses filles seront rétablies dans leurs états d'autrefois. Toi aussi, Jérusalem et tes filles, vous serez rétablies dans votre état d'autrefois. Les trois villes mentionnées représentent un certain type de population. Sodome est le monde païen. Samarie, capitale du royaume israélite des 10 tribus du Nord, c'est Israël la rebelle. Et Jérusalem représente le petit reste fidèle du peuple de Dieu. Le retour des Israélites de l'exil babylonien est une image du salut universel qui est offert à tous les hommes. Lors de l'établissement de l'Église, juifs, samaritains et païens entrèrent tous dans l'alliance de la grâce et sous la même condition de foi en Jésus-Christ. Ce passage fait aussi référence au millénium, car n'y entreront que des croyants, et tous ceux qui sont d'origine païenne retrouveront leur identité originelle. Mais les détails de ce rétablissement national ne nous sont pas donnés. Je continue plus loin. Maintenant, c'est ton tour d'être déshonoré par les filles de la Syrie et toutes celles qui l'entourent, par les filles des Philistins, qui te méprisent tout autour de toi. La Syrie fut la première nation païenne du Nord à attaquer Israël. Le bâton du pouvoir passa ensuite aux Assyriens, puis aux Babyloniens, qui sont appelés ici filles de la Syrie. Quant aux Philistins, ils essayaient toujours d'agrandir leur territoire aux dépens de Juda, quand ils étaient envahis par une puissance étrangère. Je continue plus loin. Car voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. J'agirai envers toi comme tu as agi envers moi. Tu as fait peu de cas du serment et tu as violé l'alliance. Cependant, moi je me souviendrai de l'alliance que j'ai conclue avec toi au temps de ta jeunesse et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Pendant les 70 années d'exil, l'Éternel a mis de côté l'alliance avec son peuple. Mais dans la suite des temps, il en conclura une autre qui continuera l'œuvre de rédemption commencée par la loi de Moïse. Il s'agit de la nouvelle alliance qui n'a plus un caractère national, mais qui est universelle et éternelle. C'est le seul rayon de lumière de ce passage. Par ailleurs, d'une couleur noire, encre. Je continue. De ton côté, tu te souviendras de ta conduite et tu en auras honte. Quand tu accueilleras auprès de toi tes sœurs aînées et cadettes, et je te les donnerai pour filles, sans que cela soit inscrit dans mon alliance avec toi. Cette prophétie est accomplie par l'Église universelle qui a vu le jour à Jérusalem. Son noyau originel était formé de Juifs auxquels se sont rattachés des croyants des autres peuples. Comme le salut vient des Juifs, dit Jésus, on peut dire que la Nouvelle Jérusalem est la mère des villes et nations païennes converties. Une situation qui n'est pas prévue dans la loi de Moïse, car elle fut donnée aux seuls Israélites. La Nouvelle Alliance repose sur le sacrifice de Jésus-Christ et non sur la loi. Je finis de lire le chapitre 16. Et j'établirai mon alliance avec toi et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Alors, tu te souviendras de ta conduite passée et tu seras saisi de honte. Tu seras si confuse que tu n'oseras plus ouvrir la bouche lorsque je pardonnerai tout ce que tu as fait. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Israël passera par une profonde humiliation. La nation juive sera non seulement sur le même pied d'égalité que les autres peuples, mais surtout, s'étant rendue davantage coupable qu'eux, elle sera plus consciente de son indignité et de l'immensité de la miséricorde dont elle sera l'objet. Nous arrivons au chapitre 17 qui raconte les récents événements ainsi que les projets de Sédécias, dernier roi de Juda, de se révolter contre Babylone qui est son suzerain. Je commence à le lire. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, fils d'homme, propose une énigme, raconte une parabole à la communauté d'Israël. Dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, le grand aigle survint. Ses ailes étaient grandes, son envergure était très large, il était couvert d'un plumage épais, multicolore. L'aigle se rendit au Liban et saisit la cime d'un cèdre, puis arracha son rameau le plus élevé. Il l'emporta dans un pays de commerçants, et il le déposa dans une ville de marchands. Plus loin, nous est donnée l'interprétation que je lis. Le roi de Babylone est venu à Jérusalem. Il a capturé son roi et les chefs de la ville, et les a emmenés chez lui à Babylone. L'aigle, c'est Nabucodonosor. Les grandes ailes indiquent la rapidité de ses conquêtes et la large envergure, l'immensité de son empire. Le plumage varié représente les peuples nombreux qui le composent. Le cèdre symbolise la dynastie royale issue de David et sa cime est le roi Joachim. Il fut déporté par Nabucodonosor à Babylone, appelée ville de marchands, car à cette époque, c'est le grand centre international du commerce. Je continue. Puis il prit un plan du pays et le planta dans une pépinière. Il le mit comme un saule près des eaux abondantes. Le plan poussa et il devint un cep étendant ses sarments, mais il était de taille bien modeste. Ses sarments se tournaient vers l'aigle et ses racines restaient sous lui. Il se développa, produisit des rameaux, et poussa des sarments. Ici encore, l'explication est donnée un peu plus loin. Puis il a pris un rejeton de la race royale, il a conclu une alliance avec lui en lui faisant prêter serment. Il a emmené les notables du pays pour que le royaume demeure dans l'abaissement, incapable de se relever. et qu'il reste fidèle à son alliance pour subsister. Au lieu d'imposer à Juda un gouverneur babylonien, Nabuchodonosor choisit Sédécias, l'oncle du roi Joachim, qui l'a déporté. Bien que vassal de Babylone, Sédécias peut administrer Juda à sa guise. Je continue en compressant. Puis survint un autre grand aigle aux larges ailes, au plumage abondant. Et voici que la vigne, du champ où elle était plantée, étendit vers lui ses racines et tendit ses sarments de son côté, pour se faire arroser par lui. Mais elle avait été plantée dans un bon champ, près des eaux abondantes, où elle poussait des rameaux et produisait du fruit, et où elle était devenue une superbe vigne. Dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Va-t-elle, cette vigne, prospérer? Le premier aigle ne va-t-il pas arracher ses racines et la dépouiller de ses fruits pour les laisser sécher? Il ne faudra ni grand effort, ni une armée nombreuse pour la déraciner complètement. Dès que le vent d'Orient se mettra à souffler sur elle, ne déchèchera-t-elle pas entièrement? Oui, sur le terrain même où elle avait poussé, elle desséchera. Je lis l'explication. Mais celui-ci, Sédécias, s'est révolté contre le roi de Babylone. Il a envoyé des messagers en Égypte pour se procurer des chevaux et un grand nombre de soldats. Et réussira-t-il? Celui qui agit de la sorte, s'en sortira-t-il? Il a rompu l'alliance et il s'en tirerait. Nabuchodonosor a respecté le traité qu'il a établi avec Sédécias. Juda n'est ni opprimé, ni dans la misère, puisque sa situation est comparée à une superbe vigne. Mais piqué par son amour-propre, Sédécias décide de s'allier avec Pharaon Ophra, qui règne sur l'Égypte. Or, selon l'historien grec Diodore, à cette époque, les Égyptiens peuvent armer 20 000 chariots de guerre. Mais il est facile aux armées de Babylone, appelées Vent d'Orient, d'en finir une fois pour toutes avec la rébellion de Juda. Cette prophétie d'Ézéchiel fut donnée 3 à 4 ans avant la révolte de Sédécias. Je continue en compressant. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, il mourra dans la ville du roi qu'il a appelé à régner, car il a violé son serment et il a rompu l'alliance conclue avec lui. Il mourra au milieu de Babylone. Il n'a pas respecté le serment. Il a violé l'alliance et pourtant, il avait bien donné son accord. Après avoir agi ainsi, il n'en réchappera pas. C'est pourquoi, parce qu'il a méprisé le serment prêté en mon nom et qu'il a violé mon alliance, je le lui ferai payer. Selon les pratiques de l'époque, Sédécias, en tant que roi du peuple vaincu, a juré au nom de l'Éternel son Dieu obéissance et fidélité à Nabuchodonosor, le vainqueur. Un traité de suzeraineté régit alors leur rapport. Si le vassal rompt le traité, il s'expose aux malédictions et aux châtiments prévus par le dit traité. Mais en rejetant le serment au nom de l'Éternel, Sédécias a trahi Dieu. Alors qu'il tente de s'échapper de Jérusalem assiégée, il est saisi. Ses fils sont massacrés, on lui crève les yeux, puis on l'emmène à Babylone où il meurt. Je continue plus loin en compressant. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je prendrai moi-même tes rameaux tendres de la cime du cèdre élevé et je le mettrai en terre. Je couperai un tendre rejeton du haut de ses branches et je le planterai moi-même sur une très haute montagne et il deviendra un cèdre magnifique. Toutes sortes d'oiseaux habiteront dans sa ramure et viendront nicher à l'ombre de ses branches. Dieu lui-même va choisir un membre de la dynastie de David et l'établir sur son peuple. Il s'agit du Messie qui régnera sur le monde entier. Alors, tous les peuples viendront auprès de lui. Je finis de lire le chapitre 17. Alors, tous les arbres de la campagne reconnaîtront que moi, je suis l'Éternel, qui abaisse l'arbre élevé et qui élève celui qui était abaissé, qui fait sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, je le déclare et je le ferai. Toutes les autorités de ce monde reconnaîtront dans le Messie le roi des rois et le seigneur des seigneurs. L'arbre élevé, abaissé, est la dynastie de David, qui est abaissée plus bas que terre. L'arbre abaissé est cette dynastie, mais elle sera relevée en la personne du Messie. L'arbre desséché est Joachim, qui n'aura pas de successeur sur le trône. Et c'est Décias, dont tous les fils furent égorgés par Nebuchadnezzar. L'arbre sec qui verdit est le Messie qui mourut crucifié, mais ressuscitera et qui reviendra pour régner. Nous arrivons maintenant au chapitre 18 que je commence à lire. L'Éternel m'adressa la parole et me dit « Qu'avez-vous à répéter ce proverbe dans le pays d'Israël ? Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui en sont abîmées. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, vous n'aurez plus lieu de répéter ce proverbe en Israël. » Dans le second des 10 commandements de la loi, il est écrit « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je punis les fils pour les fautes de leur père jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Sur cette base, les Israélites ont conçu un proverbe qui apparaît aussi dans les écrits de Jérémie, mais sous une forme légèrement modifiée. Les reproches et les menaces d'Ézéchiel, tels qu'ils sont donnés dans les discours précédents, provoque de la part des contemporains impénitents du prophète cette objection. Dieu n'est pas juste. Nos pères ont commis des péchés et c'est nous, leurs enfants, qui en pâtissent. En réalité, Moïse a rapporté les paroles de l'Éternel qui a dit « Moi, j'ai puni les fils pour la faute de leurs pères, de ceux qui me haïssent. » Oui, mais seulement si les enfants persistent dans la révolte de leurs pères. Moïse confirme cette interprétation quand il dit « Les parents ne sont pas mis à mort pour les crimes commis par leurs enfants, ni les enfants pour ceux de leurs parents. Si quelqu'un doit être mis à mort, ce sera pour ses propres péchés. » Dans le chapitre 18, Ézéchiel va expliquer que, d'une part, si le fils du père rebelle rompt avec les fautes paternelles, il revient à l'Éternel. Il ne portera pas la punition du péché familial. Et d'autre part, ce n'est que si le fils continue dans la mauvaise voie des pères qu'ils porteront, en plus de leur propre faute, celle des générations précédentes accumulées sur leur tête. Je ne peux pas échapper au fait que je suis le fils de mon père. Par contre, je ne suis pas obligé de répéter ces fautes. Devant Dieu, chacun d'entre nous est responsable de lui-même.